Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Le Libraire, Protégez-vous et NCS. Au programme, pour en finir avec le folklore, modernité autochtone et littérature. Pourquoi votre enfant devrait apprendre à nager? Et les travailleurs agricoles mexicains au Québec. Un intrant jetable. Bonne écoute!
Pour en finir avec le folklore, modernité autochtone et littérature, un texte de Philippe Fortin, paru le 1er juin 2021 dans le carnet thématique « Je lis autochtone », une initiative de la revue « Les libraires ». Bien de son temps, la littérature autochtone, qui est toutefois loin d'être née de la dernière pluie, connaît depuis quelques années déjà un succès qui va bien au-delà de la simple curiosité. Originale, différente, frondeuse, sentie et libre, elle tient désormais le haut du pavé en matière d'audace et de vivacité. Serions-nous en train d'assister à quelque chose d'important? Cette bête peut subvertir les codes et glorifier, pince sans rire, la persévérance du porc-épic drogué à la colle de plywood, écrit Louis-Carl Picard-Sioui dans la préface du fracassant recueil d'essais « Nous sommes des histoires ». Paru fin 2018. On ne pourrait mieux évoquer le caractère ébouriffant de la production littéraire autochtone contemporaine. Résolument actuelle, affranchie peut-être, quoique certes teintée de revendications et des luttes qui sont les siennes, cette littérature, cette bête, oui, bat la campagne et fait joyeusement flageoler les paisibles bougies de nos chaumières idéologiques. Pour Luc Vaillancourt, titulaire de la chaire de recherche sur la parole autochtone à l'UQAC, la modernité littéraire autochtone se joue quelque part entre le traumatisme de son conditionnement et la complexité de sa résurgence. Érigée à même la béance coite d'une culture exsangue ayant néanmoins su assurer sa survivance, la parole autochtone serait en voie d'autonomisation et se définirait de moins en moins par rapport au prisme de l'autre. Celui qui travaille ardemment à décoloniser les approches en recherche et dont les travaux sont orientés vers la réappropriation de la parole autochtone estime que les sensibilités nouvelles éveillées par l'émergence des « cultural studies » ont pour corollaire le danger de s'enliser dans une rhétorique du ressentiment qui rendrait plus difficile de sortir des rapports de culpabilisation et de victimisation qui gangrènent trop souvent l'appréciation de la littérature autochtone. Heureusement, la production contemporaine se joue habilement de ces écueils, étant généralement à s'en affranchir. La poète Marie-Andrée Gilles évoque pour sa part l'importance de la prise de parole autochtone qui est une voie distincte s'inscrivant dans une culture majoritaire. Si des siècles d'histoire littéraire européenne ont forcément influencé le développement de la littérature québécoise, la littérature autochtone, quant à elle, s'est bien davantage échafaudée en prenant pour socle la richesse de sa tradition orale, évoluant ainsi en parallèle des sentiers balisés de la littérature occidentale. On a besoin d'une littérature différente, d'autres histoires, d'autres visions. S'il peut sembler si difficile de catégoriser le corpus autochtone, c'est qu'il échappe aux grilles habituelles, qu'il redéfinit les genres littéraires, qu'il incarne une souplesse, une liberté, un certain lousse qui me plaît beaucoup, lance la poète. Le véritable défi est pourtant moins formel que philosophique, d'une certaine façon. Il s'agit, pour celles dont la trajectoire et les visées poétiques ont sensiblement évolué, de béante à chauffer le dehors, de trouver une façon d'actualiser les valeurs ancestrales qui, justement, sont toujours actuelles. D'être en même temps dans tous les temps. De savoir les rassembler sans les figer. Il ne faudrait surtout pas perdre les leçons tirées des modes de vie ancestraux. La narration des origines, c'est pratiquement un trait culturel. Un peu comme s'il fallait d'abord idéaliser le passé avant de pouvoir parler de soi, aujourd'hui et maintenant. Dans son excellent essai « Le territoire dans les veines », Jean-François Letourneau rappelle le rôle qu'a joué et la place que continue d'occuper la poésie en tant que genre de prédilection de l'expression littéraire autochtone. Territoire vaste et libre, instrument privilégié de l'introspection, outil puissant de la surdité des colères muettes, tout comme des cris du cœur les plus sincères, la poésie constitue assurément la pierre d'assise et le fil conducteur de cette passation du flambeau s'opérant entre générations de créateurs. D'Éléonore Sioui à Marie-André Gilles, unis par ce rapport au territoire qui fonde leur identité commune, c'est toute une quête identitaire et humaine qui s'articule, se noue et se dénoue, intime et fraternelle. Letourneau appelle ainsi de ses voeux l'avènement d'un lecteur américain qui transcende les catégories ethniques et se définit à partir du sentiment d'appartenance à l'égard du territoire sur lequel il vit. Plus important encore, celui-ci souligne que ces textes convoquent une vision du monde, celle des premiers occupants du continent, renvoyant aux non-dits qui grèvent la culture et l'histoire québécoise. Car, s'il est vrai que la spécificité littéraire autochtone est une marque de distinction, il n'en demeure pas moins que cette particularité s'inscrit aujourd'hui au cœur d'un monde dont ils sont de plus en plus partie prenante et qu'ils contribuent eux-mêmes à façonner. Tout au long de son fascinant essai « Place aux littératures autochtones », Simon Harel opère un constat doublé d'un plaidoyer pour l'aval de cette modernité qui, de part et d'autre, semble parfois poser problème. Dans ce monde, on vit entre la réserve et la ville, au cœur des communautés parfois dispersées. Ce faisant, on ne trahit personne, ni les parents, ni les enfants. Dénonçant tour à tour les dommages causés par une rectitude qui fait de la littérature un silo identitaire et la crispation idéologique de ceux qu'il souhaiterait maintenir, un primordialisme dont la pureté correspondrait à une origine perdue, l'écrivain s'enthousiasme devant le choix des créateurs autochtones d'écrire en français, véritable prise de possession linguistique. Subversive et pleine d'élan, cette bête est bien vivante, disions-nous. Elle porte aussi en elle le ferment de choc dont on peut déjà prévoir que la littérature francophone les en remerciera un jour. C'était, pour en finir avec le folklore, modernité autochtone et littérature, un texte de Jean-Philippe Fortin, paru le 1er juin 2021 dans le carnet thématique « Je lis autochtone », une initiative de la revue « Les libraires ».
Pourquoi votre enfant devrait apprendre à nager? Par Justine Momini, le 20 avril 2023, tiré de la revue Protégez-vous. La capacité des enfants du primaire à se débrouiller seuls en eau profonde a fortement chuté depuis la pandémie. Les cours de natation ont repris l'automne dernier. Il manque de place, mais cela vaut la peine d'inscrire votre enfant sur une liste d'attente et d'inciter vos ados à devenir moniteurs de natation ou sauveteurs. Piscine fermée, manque d'animateurs, liste d'attente interminable, les parents le savent. Inscrire ses enfants à des cours de natation depuis le début de la pandémie n'est pas de tout repos. Cependant, la situation revient progressivement à la normale, selon Éric Hervieux, président de l'Association des responsables aquatiques du Québec, ARAQ. Y a-t-il assez de cours? Les piscines ont fermé en mars 2020, et ce n'est que l'automne dernier que les cours de natation ont repris de façon régulière. L'an dernier, l'offre de cours avait baissé de près de 40 % par rapport à l'avant-pandémie. Aujourd'hui, il manque encore de 10 à 15 % pour revenir à la normale, dit Éric Hervieux. Selon lui, la situation sera rétablie d'ici fin 2023. À titre d'exemple, Québec Natation, la plus grande école de natation à Québec, aurait pu donner des cours de natation à 4 500 élèves pour la session de ce printemps, mais elle n'a pu offrir que 2 800 places par manque de personnel, rapporte Richard Bernier, propriétaire de l'entreprise. Une des raisons du manque de cours vient des parents eux-mêmes. Plusieurs inscrivent leurs enfants dans différentes écoles de natation pour être sûrs de trouver une place. En agissant ainsi, ils bloquent les places pour d'autres enfants, avertit Richard Bernier. Avertir l'école que l'enfant ne viendra pas, car il a un cours ailleurs, permettrait d'offrir la place à une autre personne. Québec Natation a actuellement 6 000 jeunes inscrits sur sa liste d'attente, faute de places disponibles. Moniteurs et sauveteurs, formation gratuite et job d'été. La principale raison du ralentissement des cours demeure toutefois le manque de personnel. En effet, la pandémie a freiné la formation de sauveteurs et de moniteurs. La plupart d'entre eux commencent à travailler vers l'âge de 16 ans, mais ils changent souvent d'emploi vers 19 ou 20 ans, au moment d'entrer à l'université. Avec la pandémie, nous avons perdu les deux tiers de nos employés sans pouvoir renouveler le bassin de travailleurs, mentionne Éric Hervieux. Pour pallier cette pénurie, le gouvernement du Québec a octroyé l'été dernier un financement de 21,5 millions de dollars pour rendre gratuite la formation de sauveteurs et de moniteurs et encourager de jeunes nageurs à se former dans les centres aquatiques agréés. La situation est donc en train de s'améliorer. Avant la pandémie, selon ce qu'indique la Société de sauvetage du Québec, plus de 5 000 jeunes suivaient la formation de sauveteurs chaque année. En 2020, ce nombre avait dégringolé à 2 500. Et en 2021, 4 500 personnes ont repris la formation. Devenir moniteur ou sauveteur pourrait d'ailleurs intéresser des adolescents à la recherche d'un emploi. Les centres aquatiques sont toujours à la recherche d'employés. Un jeune qui entame sa formation est sûr d'avoir du travail, affirme Éric Hervieux. Où inscrire son enfant pour un cours de natation? Depuis janvier 2023, ce n'est plus la Croix-Rouge qui s'occupe des programmes de cours de natation des enfants, mais la Société de sauvetage du Québec. Avant, celle-ci s'occupait uniquement des cours destinés aux sauveteurs et moniteurs de la province. La Société de sauvetage du Québec propose le programme « Nager pour la vie », offert partout au Québec dans près de 200 centres aquatiques différents. À noter, le nom des cours a changé. Il est conseillé de consulter le document d'équivalence des différents niveaux disponible sur la page Internet de la Société de sauvetage. Reynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec, suggère d'inscrire son enfant le plus tôt possible. La plupart des installations favorisent actuellement les réinscriptions, déclare-t-il, et priorisent les personnes qui étaient inscrites à la session précédente. Éric Hervieux incite aussi les parents à procéder à l'inscription malgré les listes d'attente. Certains gestionnaires de centres aquatiques peuvent ouvrir davantage de cours s'il y a beaucoup de demandes, précise le président de l'ARA. Richard Bernier de Québec Natation ajoute que les sessions d'été sont habituellement plus tranquilles dans les centres aquatiques. Davantage de places seront disponibles dans quelques mois. Il est également possible de regarder du côté de l'Association des camps du Québec, ACQ, qui offre parfois des camps aquatiques. Si un cours n'est pas disponible pour la session souhaitée, Reynald Hawkins suggère aux parents d'inscrire leur enfant à d'autres sports aquatiques, comme le plongeon, la nage synchronisée ou le water-polo, pour qu'il soit davantage à l'aise dans l'eau. Dans tous les cas, le directeur général de la Société de sauvetage du Québec appelle à la prudence. Lorsqu'un enfant commence à marcher, les parents lui apprennent à tenir systématiquement la main d'un adulte pour traverser la rue, dit-il. On doit faire la même chose avec l'eau. Il ne faut pas laisser un enfant se baigner sans surveillance. Dans un cas de noyade sur deux, la personne était seule au moment de l'accident. Des chiffres alarmants. Reynald Hawkins craint l'impact de l'absence, même temporaire, des cours de natation sur la capacité des jeunes à nager. Il en prend pour preuve les derniers résultats du programme Nager pour survivre. Mis sur pied en 2016, ce programme permet d'évaluer l'habileté d'élèves du primaire de 8 ans et plus à survivre à une chute inattendue en eau profonde grâce à de bons réflexes. Ce programme se donne actuellement de façon volontaire, sous forme de sortie scolaire pour les écoles primaires qui choisissent d'y participer. Or, selon des données publiées par le réseau aquatique Drummondville, RAD, le taux de réussite du programme est passé de 58 % en 2019 à 34 % en 2022. Il y a une différence entre se baigner et savoir nager, explique Reynald Atkins. Ma plus grande peur est de voir augmenter le nombre de noyades dans les années à venir. Éric Hervieux, de son côté, remarque également que les jeunes sont moins à l'aise dans l'eau. Lorsqu'on a repris les cours, beaucoup d'enfants ont dû recommencer deux fois le même niveau, dit-il. Il y a un rattrapage à faire, une mise à niveau, mais c'est assez normal.
Les travailleurs agricoles mexicains au Québec, un intrant jetable. Un texte de Eliana Cardenas Mendes paru le 8 avril 2022 dans la revue Nouveau cahier du socialisme. Le Mexique est entré dans le programme des travailleurs agricoles saisonniers, PTAS, en 1974 avec la signature d'un accord bilatéral établissant un protocole d'entente entre les gouvernements du Canada et du Mexique. Il visait à fournir des travailleurs pour les travaux agricoles de 9 provinces canadiennes. D'année en année, le nombre de travailleurs saisonniers mexicains au Canada a augmenté pour atteindre 18 499 en 2013, soit un total de 261 301 travailleurs entre 1974 et 2013. Un programme fait sur mesure. En 1987, le PTAS a été privatisé et le programme a dès lors été géré par des entités privées comme la Fondation des entreprises en recrutement de main-d'œuvre agricole étrangère, FERM. Par l'intermédiaire de ces organisations, les entrepreneurs agricoles canadiens soumettent des demandes pour répondre à leurs besoins en main-d'œuvre. Au Mexique, par contre, la gestion du programme est confiée au ministère du Travail et de la Protection sociale, qui assure la diffusion du programme de mobilité de la main-d'œuvre, le recrutement du personnel et la répartition subséquente des travailleurs dans les fermes canadiennes, de même que les procédures, demande de passeport, vérification des examens médicaux, demande de visa, procédure de billetterie et enregistrement des demandes d'emploi auprès des associations d'employeurs. En retour, les employeurs canadiens s'engagent à fournir aux travailleurs des logements qui répondent aux exigences minimales d'habitation et à équiper la maison d'appareils électroménagers ainsi qu'à fournir de la nourriture. Cependant, le coût du logement et de la nourriture est facturé aux migrants. Le contrat couvre les frais de transport aérien, de sécurité sociale et d'assurance vie pendant la durée du contrat. Ceux qui adhèrent au programme restent de 6 semaines à 8 mois au Canada sans possibilité de prolonger leur séjour. Ils n'ont pas le droit de demander un changement de formulaire d'immigration en vue de la permanence, ni le droit au regroupement familial. Les travailleurs ne peuvent demander l'asile politique ni le statut de réfugié. Qui en profite? 50 ans après la mise en place du modèle PTAS, les asymétries dans le programme sont évidentes. Le Canada est devenu l'un des pays agro-exportateurs les plus importants au monde grâce à l'exploitation de la main-d'œuvre mexicaine. Sans cadre juridique pour la protection des travailleurs, les migrantes et les migrants se retrouvent dans une situation vulnérable. Cette situation exprime le rapport inégal entre les besoins de la main-d'œuvre du Sud par rapport aux besoins de l'économie du Nord. Les pays du Sud restent des pourvoyeurs de main-d'œuvre dont dépend une partie très importante du PIB de ces pays, sans qu'ils puissent négocier des contrats réglementés qui seraient appropriés entre deux États souverains pour la protection juridique des travailleurs migrants. reflet des inégalités inhérentes à la division internationale du travail et à l'hégémonie des pays du Nord, les travailleuses et les travailleurs sont à la merci d'embauches irrégulières, de salaires précaires, d'horaires de travail pénibles. Ils sont sans aucune sécurité sociale et exposés à des mesures disciplinaires dictées par des règles qui les attirent, les repoussent ou les expulsent selon la convenance des employeurs. Pour le reste, il est clair que ces dynamiques migratoires et les conditions de travail des travailleurs, loin d'être des conditions d'indépendance ou d'autonomie pour les pays d'origine comme pour les travailleurs, renforcent les relations de dépendance nationale et régionale déterminées par le contexte d'attraction pour des emplois et par l'hégémonie des pays du Nord. La gestion des flux. La conditionnalité du retour constitue la caractéristique principale de la migration circulaire. Elle vise à gérer les flux, à faciliter l'exploitation de la main-d'œuvre et à sauvegarder la compétitivité de l'employeur. Ainsi, la migration circulaire empêche l'installation du travailleur et assure son retour à son pays d'origine car, comme on l'a indiqué, la résidence, la nationalité, l'asile politique et le regroupement familial sont interdits. En même temps, en raison de la nature temporaire du séjour pour des emplois spécifiques, le travailleur, qui n'est sur le territoire canadien que pour des saisons limitées et principalement à l'intérieur des fermes, vit des conditions et un isolement qui empêchent tout type d'intégration à la société d'accueil. Ce processus ne vient pas du ciel. L'augmentation des flux de migrantes et de migrants est la conséquence de la libéralisation des marchés, de l'intégration des économies nationales aux marchés internationaux, des processus de privatisation de l'économie, ainsi que de la dislocation des appareils politiques mandatés pour la protection sociale. La dérégulation de l'économie fait de l'emploi un bien rare et exacerbe les différences et les inégalités entre les pays, les marchés et les individus. Elle génère une offre excédentaire de travailleuses et de travailleurs du Sud. La migration circulaire comme modèle. La migration circulaire devient, dans ce contexte, un modèle de mobilité idéal dans la mesure où elle permet l'entrée légale des travailleurs et des travailleuses, mais avec des restrictions à la libre circulation et pendant des périodes strictement déterminées. En même temps, elle remplit l'objectif de fournir de la main-d'œuvre internationale aux entreprises et de favoriser leur compétitivité et leur rentabilité. Ce qui distingue la circularité au XXIe siècle, c'est la tendance à la répétition de la formule « partir et revenir ». Dans ce type d'accord, la force de travail constitue un intrant de production, sans autre droit que celui de la reproduction de la force de travail elle-même. Dans cette mobilité, il y a un contrôle strict du temps et de la mobilité du travailleur ou de la travailleuse, ce qui l'empêche de s'enraciner ou d'être librement employé. Pour cette raison, le nouvel ordre social ne se soucie pas de l'intégration de l'immigré. Ainsi, la travailleuse ou le travailleur international mobile devient un intrant jetable. Les termes qui changent au détriment des travailleurs. Cette absence de statut dans les législations s'accompagne d'une sorte de vulnérabilité garantie. Le travailleur est inclus dans un processus de production, mais reste sans droit, tant sur le plan migratoire que sur le plan du travail. Cette situation favorise la violation des droits sociaux des migrantes et migrants circulaires. Ces derniers demeurent en dehors des paramètres légaux, leurs droits sont strictement ciblés et partiels, contrairement aux personnes natives et à celles immigrées permanentes. Une enquête réalisée auprès des travailleurs originaires de la communauté de Roviroza démontre que les conditions du PTAS se sont détériorées. À l'origine, le programme accordait aux travailleurs sélectionnés selon une nouvelle modalité une aide de 3 000 $ pour couvrir les frais d'examen dans les cliniques officielles du secteur de la santé à Mexico, afin de garantir l'état de santé des candidats. Récemment, cet avantage a été abrogé. Actuellement, les travailleurs couvrent les coûts des procédures telles que le passeport et le permis de travail pour lesquels le gouvernement mexicain accorde une réduction. Le travailleur paie le loyer, la nourriture, ce qui représente en moyenne 30 $ par semaine. En Ontario, où la majorité des travailleurs mexicains se trouvent, le salaire minimum est de 14,25 $ canadiens l'heure. Les horaires sont variables selon les cycles de la production, ce qui fait de très longues heures au moment des récoltes. Conclusion. Contrairement à un certain discours lénifiant qui célèbre la migration comme un moyen de réduire la pauvreté, la migration en général et la migration circulaire en particulier surexploitent la main-d'œuvre et représentent une perte de capital humain pour les communautés locales tout en assurant une armée de réserves disponibles pour la production dans des pays du Nord comme le Canada. C'était « Les travailleurs agricoles mexicains au Québec, un intrant jetable ». Un texte de Eliana Cardenas Mendes paru le 8 avril 2022 dans la revue Nouveau Cahier du Socialisme.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vizevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage, Serge Hamelin et Robert Chartier à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.